On va prier. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Et nous voulons que tu viennes t'installer en nous en tant que temple de l'Esprit. Nous nous recommandons à toi entièrement, Esprit, âme et corps. Que le sang de Christ et l'Éternel recouvre nos oreilles intérieures. Pour que nous puissions écouter comme tu demandes aux disciples d'entendre ta parole, Seigneur. Tout ce qui sera de nature à peser sur notre esprit comme une chape de plomb, je les ligote et je les déchire dans le nom de Jésus, que les esprits soient ouverts, que les intelligences soient libérées, que l'enthousiasme du Seigneur nous soit communiqué. Toutes ces puissances qui tentent de nous amener dans les abysses en profondeur, Seigneur, que leur force soit anéantie, brisée par le nom de Jésus. Car Christ nous a libérés. Et nous devons vivre dans la joie qui fait notre force, la joie qui vient d'en haut. Nous te prions de bénir ces instants de partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La vie par l'Esprit et dans l'Esprit caractérise la vie chrétienne, qui est désormais le mode de vie. Oui, j'en ai d'autres. Qui est désormais le mode de vie que toute personne justifiée par la foi est appelée à mener. Et la vie par la foi nous a été longuement entretenue dimanche dernier par notre sœur Clémence. Le juste vivra selon la foi. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Habacuc, le juste vivra selon sa foi, selon les œuvres qu'il fait. Mais le juste vivra selon la foi, c'est défini, la foi en Christ. Ainsi, l'intention du Saint-Esprit, c'est un message, le reliquat de message de l'année dernière, que nous allons clôturer pour engager d'autres thématiques. Ainsi, l'intention du Saint-Esprit, dans lequel nous avons tous été plongés. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on a l'impression que nous sommes comme un récipient qui reçoit de la part de Dieu. Mais c'est une mauvaise manière de voir les choses. Ce n'est pas exact. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est que Dieu nous prend et nous plonge en lui. C'est ça la différence. Si nous nous proposons simplement comme un contenant qui doit recevoir l'Esprit, c'est une demi-vérité, elle n'est pas vraie. Être baptisé, c'est être plongé. C'est-à-dire que la présence de Dieu, il est là et je suis plongé dans cette présence. Je sors de mes limites et j'intègre les limites de Dieu. Donc l'intention de l'Esprit est d'éveiller notre conscience à la fois sur ce que nous sommes devenus désormais aux yeux de Dieu et de nous amener progressivement en tant qu'enfants de Dieu, participant de la nature de Dieu, à manifester la vie spirituelle qui est celle de Dieu sur cette terre ici-bas. C'est ça qui doit être le moteur de notre marche. Si nous comprenons cela, nous comprenons tout dans la parole du Seigneur. Et ce message est comme un aquarium que je pose, dans lequel se trouve l'eau et dans lequel le poisson de notre foi peut y demeurer. Elle est nécessaire de comprendre ce genre de choses pour que nous puissions poser notre foi dans une sorte de certitude que l'ennemi ne peut pas démonter par le doute. Permettez-moi cette métaphore. Le salut en Christ est comme une arche dont les plans ont été réalisés par le Père, Dieu, et dont la construction a été accomplie par le Fils Jésus, et dont la conduite est confiée au Saint-Esprit. Alors c'est ce dernier qui ouvre la porte de l'arche pour que nous puissions y entrer. Et c'est lui qui la met en marche. Et c'est encore lui qui la conduit et qui le fait naviguer sur des flots, parfois houleux, parfois calmes, mais l'essentiel que nous allons vers une destination finale. À ces différentes étapes, on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'action de l'Esprit pour notre salut ne s'arrête pas à ce qui a été décrit pendant pas mal de temps au milieu de nous. Consolateur, avocat, assistant, conducteur, tout ça c'est vrai. Mais il y a deux réalités fondamentales dans la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit dont on ne parle pas beaucoup et que j'aimerais aujourd'hui ce matin aborder avec vous au travers de ces messages, ces passages qui vont s'afficher. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Alors, Zorobabel, c'est un administrateur. Hein. C'était l'un de, voilà, les premiers qui ont ramené le peuple d'Israël de la captivité. Hein. Après, ce serait Esdras, après, ce serait Néhémie. Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'autre texte, dans Corinthiens, 2 Corinthiens, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Continue. Il nous a aussi marqué de son sceau, notez bien, sceau, et a mis dans nos cœurs les arts, notez arts de l'esprit. Et un dernier texte, déjà Éphésiens que nous sommes en train d'étudier. En lui, en qui ? En Jésus. Parce que lorsque vous allez lire les premiers chapitres, en lui, apparaît 6 ou 7 fois. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, cet aspect fondamental. Entendre la parole de la vérité signifie écouter le message de Dieu qui nous appelle au pardon, à la repentance et qui nous donne la semence de la nouvelle naissance. Là, à partir du moment où nous attendons la parole de la vérité, nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Nous sommes différents. L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, j'écoutais ces derniers temps, à la radio, une histoire d'identité numérique. J'ai tilté. Je me dis qu'on n'arrête pas à parler de l'identité numérique. Il s'agit encore de l'histoire de cette marque de la bête dont on parle souvent. Mais je ne veux pas aborder la question de marque de la bête aujourd'hui. Je veux prendre le verre demi-plein. Et on abordera le verre demi-vide un peu plus tard. Ce que nous sommes devenus. Pour que la marque de la bête ne soit pas appliquée à notre vie. Voilà la question. Une conception religieuse confuse vient de la part du Saint-Esprit. On part souvent du même texte, mais les explications sont assez brouillardes. Et cette explication assez brouillarde voile une part de la vérité à ce sujet. Mais nous allons essayer, par la parole de Dieu, à nous recentrer. On a enseigné aux enfants de Dieu des enseignements contradictoires. Et toujours à partir des mêmes textes. On les a tellement avertis, voire menacés, intimidés, qu'ils éprouvent un recul instinctif devant toute mention de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Pourtant, il est d'importance capitale pour que le croyant et l'Église comprennent bien quel est le rôle, quelle est la personne de l'Esprit-Saint. Comment est-il possible que Jésus le Christ, monté aux cieux après la résurrection de son corps physique, puisse affirmer encore se tenir à nos côtés jusqu'à la fin du monde? Êtes-vous posé cette question? Quel est le Consolateur? Qui est-il? Cet esprit de vérité dont il est dit que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas le recevoir et que vous et moi, nous le connaissons et que nous allons le recevoir. Qui est-il, cet esprit? Comment s'approprier alors cette réalité chrétienne? Quand Jésus dit « Je viendrai à vous, je serai en vous et vous habiterez en moi. L'Esprit Saint demeure en vous et il sera en vous et vous serez en lui. » Ça, ce sont des réalités déjà accomplies. Et souvent, nous n'en avons pas la pleine conscience pour la vivre pleinement. Ce sont des réalités divines que l'Esprit de Dieu nous demande ce matin à appréhender. Et sur laquelle veut réveiller notre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avoir opéré en chacun de nous la nouvelle naissance, car je l'espère que nous sommes tous nés de nouveau, on n'est pas que de chrétiens sociologiques ou culturels, parce que le danger dans les Cévennes, c'est que le protestantisme n'est pas une identité spirituelle, c'est une identité culturelle. On est protestant du père en fils, de grand-père au petit-fils. Il n'est jamais donné l'occasion à chacun de faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Voilà qui explique l'essoufflement de l'Église. Les souvenirs que mes grands-parents ont, qui ont vécu une situation particulière sur laquelle est appuyée leur foi, ce souvenir s'amenuise au fur du temps, de génération en génération. Et dans les générations suivantes, il n'y a plus rien qui reste. On accueille de Dieu qu'une connaissance intellectuelle, mais pas une connaissance du cœur. Ça, je le dis vraiment avec gravité, mes bien-aimés. Ce n'est pas une accusation. L'état de l'Église le montre. Quand vous voyez les chrétiens, c'est comme si nous sommes battus par la tempête. Mais non, on a le grand Dieu du ciel. Il nous équipe pour le témoignage, le Saint-Esprit. Il nous équipe pour le service, pour l'œuvre de Dieu. Voilà ce à quoi nous invite ce matin, s'il vous plaît, à écouter la parole du Seigneur. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Bien que ce passage fût adressé à Zorobabel, qui était une figure importante dans la restauration de l'espoir du peuple d'Israël, au retour de l'exil babylonien, il a dû faire preuve de courage, de détermination, et par moments des fois inébranlables face à l'adversité, pour mener à bien la reconstruction de la maison de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance militaire, ni par le pouvoir politique, ni par la force de l'homme, ni son génie, qu'il parviendra à mener à bien le projet que Dieu a mis dans son cœur, même si tous ces différents éléments sont nécessaires. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va combiner les choses. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut diriger nos pas. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre capables d'accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire, même pour nous. Parfois, nous sommes notre propre ennemi. Nous ne faisons pas que Dieu nous demande de faire pour nous, pour notre propre bien. Et ce faisant, nous nous fermons l'accès du salut, et pour n'avoir pas reçu, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir apporter à l'autre ce que nous avons de la part de Dieu. C'est si simple que cela. La vie spirituelle n'est pas une vie de surface, elle est fondamentale. Il y a une vie qui a été livrée pour ça. La vie de celui qui est le Fils de Dieu. Et nous pouvons évaluer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu en fonction de l'étendue de sacrifices consentis pour nous sauver. Je le disais ce matin avec les enfants. Les gens peuvent vous mépriser. Ils peuvent vous diminuer. Ils peuvent dire ce qu'eux, ils pensent de vous. Mais vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Ça change tout. Dieu a dit que je suis sa fille et je suis son fils. Et si je mesure la profondeur de cette phrase, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Et c'est à cause du Saint-Esprit, à cause de l'œuvre qu'il est appelé à faire, que Jésus a baptisé chacun d'entre nous. Oui, il a promis de le faire, et il l'a déjà fait, mais c'est à nous de le recevoir. Car Jésus leur a dit à ses disciples, c'est Jean-Baptiste qui le disait à son temps, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Peut-être que le Saint-Esprit, nous l'avons, c'est sûr. Mais je crois que le feu, il nous faut encore le feu. Parce que le rôle du feu, c'est de tout cramer. C'est de tout brûler qui est fait avec de la chaume, du fouet et de la paille, qui sont les œuvres humaines. Pour laisser ce qui est de l'or, de la pierre précieuse qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui traverse les temps. L'œuvre de Dieu peut être faite avec des matériaux qui ne durent pas. L'œuvre de Dieu aussi peut être faite avec des matériaux qui restent dans l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte toujours à bâtir sur des fondements solides. Je parlerai du feu à une autre occasion. Je vous invite maintenant à apprécier deux fonctions essentielles du Saint-Esprit, que nous l'avons vu tout à l'heure. Premièrement, le Saint-Esprit est le sceau S-C-E-A-U-T, divin, sur ceux qui ont cru à l'évangile de Christ et qui sont nés de nouveau par la semence de la parole. Il y a une réalité spirituelle dans cette phrase. Le Saint-Esprit ne peut pas nous être donné avant que nous soyons morts et ressuscités avec le Christ. Dieu n'envoie jamais son esprit sur la chair. Dans l'Ancien Testament, il le fait de manière occasionnelle pour nous ouvrir les yeux que, attention, c'est dans cette direction-là que j'y vais. Mais le Saint-Esprit ne reste jamais de manière permanente, il ne vient que de manière occasionnelle. Mais en nous, Dieu a permis que l'Esprit pénètre en nous. Il nous a assimilés avec lui, comme un enfant qui se trouve dans le sein de sa maman. De ce que nourrit la maman, et c'est ce que nourrit l'enfant. De ce qui est Dieu, et c'est ce que nous devons nous nourrir. C'est-à-dire la parole de la vérité, la parole de la vie éternelle. Le pain de l'âme, le pain de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que personne ne viendra à ma suite s'il ne renonce à sa vie. On est trop égocentrique, ou alors philanthocentrique, centré sur l'homme. On n'est pas christocentrique, c'est-à-dire notre vie n'est pas arrimée à Christ. L'individualisation et la culture du moment, post-moderne, post-chrétienne, tout est fait pour nous centrer sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux recueillir en un bénéfice à travers une telle situation? Je calcule tout par rapport à ma propre personne. Et s'il est question d'écouter les gens dans notre monde, on aurait pu avoir 66 millions de Français et 66 millions de lois, des règles. On n'aime pas se mettre dans une norme établie par Dieu. On a une liberté qui nous rend esclaves de la liberté. Et cette liberté que nous réclamons devient liberticide, c'est-à-dire ça tue la liberté. N'allez pas sur la neige, elle va tomber et va occasionner des dégâts. Mais non, je suis libre, je prends mon ski, je monte dans des endroits et je me mets en danger, et je mets le service de secours en danger, et je mets tout le monde en danger. Ça part d'où? Ça part du désir de se satisfaire, mon propre désir. Et je peux en faire la liste. L'homme qui est complètement déconnecté de Dieu, il vit que par lui-même. Et certains vont vous parler de l'humanisme, comme j'en parlais hier avec un concessionnaire. Alors il me dit l'humanisme, ça, c'est le joyau de la société. Je dis, vous parlez de quel humanisme? Parce qu'il y en a deux. L'humanisme athée, qui renie Dieu, vous mettez le poisson, prenez le poisson, sortez-le de son aquarium, mettez-le de côté, dites-moi au bout de 2 heures s'il continue à vivre, oui ou non. Et tous les êtres humains sont sortis de l'aquarium, ils vivent dans le désert, et ils sont en train d'élaborer une théorie dans leur propre vie pour se consoler, parce qu'ils sont sortis de la source. Nous sommes des poissons, notre place est dans l'eau. Nous sommes faits pour vivre en connexion avec Dieu. Si tu parles d'humanisme chrétien, oui, je comprendrai, et encore là aussi. Ce n'est pas de l'humanisme chrétien, mais c'est de l'amour dont Dieu nous parle, l'amour de ton prochain. Alors, le Seigneur nous envoie le sceau. Qu'est-ce que c'est que le sceau de l'Esprit? En tant que sceau dont nous avons été scellés, le Saint-Esprit atteste l'authenticité de notre appartenance à Dieu. Voilà le rôle du sceau. Si vous avez le sceau de Dieu, comment on le reçoit? On reçoit le sceau de Dieu par la parole de la vérité qui est Christ. Christ était considéré comme le sceau de Dieu. Il est venu pour mettre sur notre cœur son tampon. Que vous appartenez maintenant à Dieu et que vous êtes sa propriété. Autrement dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, encore moins au monde. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas Dieu. Ah oui. Mais bien aimé, c'est un grand privilège. Ce sceau, Jésus a tapé, a mis le sceau sur nous. Comme si vous voulez envoyer une lettre, vous mettez le tampon. Et le tampon, c'est la marque d'authenticité, de ce qui est conforme à la vérité. Contrairement à la marque de la bête que le diable va mettre sur les humains, qui va leur donner l'impression qu'ils appartiennent à Dieu, mais en réalité, ils appartiennent à un autre maître. Quand vous avez le sceau de Dieu, vous n'appartenez à plus personne qu'à Dieu seul. tout seul. Avant, dans le XVIIIe siècle, à Gorée, on estampillait les esclaves avec le nom de leur maître. On les achetait, et si le nom du maître est Benson, alors on met caché Benson. Vous appartenez à Benson. Vous n'appartenez plus ni à votre tribu, ni à votre femme, ni à rien, mais vous appartenez à votre maître. C'est pour dire que cet esclave n'appartient ni à quelqu'un d'autre qu'à moi. On le prend, on l'amène à la destination à moi. Il marque son authenticité. Et nous, en tant qu'esclaves du péché, nous en sommes sortis. Dieu a dit que voilà, je vous ai racheté, je mets sur vous mon tampon et vous n'appartenez plus au monde, vous m'appartenez à moi. Entièrement. Entièrement. Le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous marque comme étant sa propriété. Et Jésus le dira, personne n'arrachera mes brebis de mes mains, les brebis que mon Père m'a données. Ben voilà. Jésus a dit que je ne verrai personne qui viendra vous arracher de ma main. Vous êtes dans ma main là. Mon sceau est marqué sur vous. Personne ne viendra vous arracher de ma main. Nous pouvons faire le rapprochement du sceau de l'Antiquité avec les scellés que les huissiers apposent sur des meubles destinés à couvrir des dettes. Bien qu'il reste là dans l'appartement, mais quand c'est scellé, on dit que c'est sous scellé. Vous n'avez plus le droit d'y toucher. Et nous sommes scellés. Le diable n'a pas le droit de nous toucher. Scellez cette vérité dans votre cœur. Sur le plan spirituel, le sceau de l'Esprit signifie que nous appartenons à présent à Dieu, nous appartenons plus à nous-mêmes, ni au monde, comme je le disais tantôt, ni au diable, mais à celui qui s'est donné comme sacrifice en rançon pour que nous soyons libérés et que nous puissions appartenir à Dieu. Alors, il donne lui un avantage. Comme nous appartenons à Dieu, Dieu nous protège. Quand on est scellé, on est protégé. Il ne faut pas avoir de l'inquiétude pour tout ce qui se passe dans le monde, mes bien-aimés. C'est vrai que quand on écoute les médias, il y a de quoi s'effrayer. Ils font tout pour nous déstabiliser. Mais souvenez-vous d'où ce que vous êtes sortis. Souvenez-vous de quel rocher vous êtes sorti. Ésaïe 51. Souvenez-vous de quel rocher dans lequel vous avez été taillé. C'est Jésus. Le rocher du siècle. Le fondement de la reconstruction du nouveau monde. L'ancien monde est déjà en train de partir. Jésus a écrasé l'ancien monde et il est en train de reconstruire un nouveau monde dans lequel toi et moi sommes éligibles. Si et seulement si nous acceptons l'appel de Christ. Les gens n'iront pas en enfer pour avoir commis beaucoup de péchés. Non. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont fait ceci. Non. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de saisir la main tendue de Dieu. La main de grâce. Cette main de grâce, quelle que soit la densité de nos péchés, le sang de Christ est plus puissant pour nous laver, pour nous purifier. Alors comme sceau, le Saint-Esprit met sa marque sur le croyant que nous sommes comme appartenant à Dieu. En même temps, il indique l'œuvre de la rédemption qui est déjà accomplie. Oui, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. L'homme est tombé dans le péché, compromettant sa relation avec Dieu le Père, qui est la source de toutes choses. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Son amour a fait qu'il a tendu la main vers nous pour nous ramener à lui, pour nous reconstruire, pour nous recréer à nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Ben vous me direz que vous n'avez pas changé, vous êtes le même. Ce n'est pas vrai, on a changé un peu. Si vous prenez la tête de Cabanis, il n'est pas là il y a 20 ans. Si vous me prenez ma tête, vous me verrez il y a 30 ans, je ne suis pas ce que vous voyez maintenant. Il y a un changement, ça c'est sûr et certain. Mais ce changement n'est que physique. Le changement de Dieu, c'est intérieur. Le changement de Dieu, c'est intérieur. Dieu, dans la création, il avait fait l'homme et après il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Mais dans la nouvelle récréation, Dieu ne fait pas la chose de la même manière. Il commence par l'esprit avant de pouvoir faire éclater le corps. Et c'est une des troisièmes propriétés ou de l'œuvre de l'esprit que nous allons aborder pour la troisième fois. Le sceau, les arts de l'esprit et comment le Saint-Esprit intervient lors de la résurrection. Quand Jésus viendra chercher son Église. Vous y avez pensé à ça? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va être en action pour nous ramener de la mort à la vie. si sa présence n'est pas en nous, nous ne pouvons pas être aimantés par le Seigneur. C'est les oiseaux de même nature qui se rassemblent. La nature de Christ qui est l'aimant et nous qui sommes les métals, whoop, il va nous happer pour que nous puissions nous joindre avec lui. Et ça, il faut que le Saint-Esprit rentre dans son ministère. Scellé. Et quand on est scellé, on est scellé. Personne ne peut l'enlever. C'est indélébile, là. Le sceau de Dieu, personne ne peut l'enlever. Et c'est la garantie de tous les bienfaits que Dieu va nous donner à l'avenir. C'est pourquoi on appelle ça les arts de l'esprit. A-2-R-H-E, qui est un terme commercial. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous amenez hein, pour caler l'objet. Voilà, ça c'est à moi, je donne un petit acompte pour qu'après je puisse donner le reste et la chose m'appartient. Et donc Dieu nous envoie les arts de l'esprit. Quelques richesses préliminaires pour nous permettre de vivre sur la terre. Pas tout, il ne donne pas tout. Même si nous avons été bénis de Christ, en Christ, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, nous avons les arts. Petit à petit, Dieu a lâché pour que nous ayons de quoi vivre. Et c'est pour nous dire que voilà, ce que je vous ai promis, vous aurez la totalité lorsque les temps seront accomplis. C'est pas merveilleux ça? Ah oui? À compte. Nous avons une espérance en attendant des biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre de leur éclat. Voilà les biens que Dieu nous donne. Alors encore à ce niveau-là, il va falloir relativiser les choses, les biens. Nous sommes tellement sensuels, on est tellement habitués à voir des richesses matérielles, de l'or, de l'argent, des choses que nous touchons. Et lorsque quand on parle des biens, spontanément, notre chemin mental s'oriente vers ces différents éléments. Mais non, on est au-dessus des événements du monde. Les biens de ce monde-là corrompront un jour, ils vont disparaître. Les biens dont parle Dieu, c'est le souffle de l'Esprit que Dieu nous a donné. Tout est dans le souffle de l'Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu avec vous. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu que je dois chercher? C'est sinon que sa présence. Ces ressources en Christ nous sont réservées dans les cieux. La résurrection de Jésus constitue l'espérance sur laquelle les croyants doivent construire leur nouvelle existence. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Éphésiens. L'apôtre Paul nous amène à avoir le regard de Dieu sur les choses du monde. Mais pas les choses du monde par rapport au regard de Dieu. Non, on monte dans le ciel, on a tout, et de là-bas, on jette notre regard, on apprécie les choses à la lumière de la parole de Dieu. Le chantier, il est vaste. Hein? C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela. Il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous a réservés. Voilà, à la révélation finale, nous allons avoir part à tout ça. Quelle bénédiction d'avoir le témoignage et l'assurance du Saint-Esprit, que nous sommes la possession de Christ lui-même et que nous héritons toutes ces choses en leur temps. Car en Jésus, Dieu nous a établis et héritiers de toute sa grâce. Il n'y a pas de raison à désespérer. Il n'y a pas de raison à se morfondre. Quand votre âme est en train de s'acheminer vers le toboggan, vers la terre là, saisissez-le, ramenez-le vers les hauteurs. C'est pour ça que David le fait. Hein. Quand David s'aperçoit qu'il est en train de s'affaisser spirituellement, il dit, « Hey, mon âme, réveille-toi et secoue. Et ça vous arrive, vous ?» Non. Ou alors vous vous laissez entraîner par votre âme. On est des êtres spirituels, on ne se laisse pas diriger par nos sentiments. Si vous êtes dirigé par vos sentiments, vous êtes esclave. Ne vous laissez pas diriger par vos sentiments. Les sentiments mentent. Ils ne disent pas la vérité, les sentiments. Et quand on vit la vérité, on ne le vit pas de manière palpable, sensuelle. La vérité, c'est un concept spirituel. Et la vérité, c'est Dieu. Mais Dieu, nous le voyons, on ne le voit pas, comme l'air. Cependant, l'air nous souffle pour nous donner la vie. On y croit. Le juste vivra par la foi. Et aux enfants, je leur ai dit que Dieu a dit que celui qui veut plaire à Dieu doit vivre par la foi. Sans la foi, personne n'est agréable au Seigneur. Je dis que le cours que je vous donne là, c'est le cours, ce n'est pas une instruction religieuse. Attention, c'est un mot qui ne me plaît pas trop. Moi, en tant qu'enseignant, il y a des cours académiques qu'on donne aux enfants pour leur donner le savoir. Mais ce que nous vous donnons dans la parole de Dieu, ce n'est pas vous donner le savoir, c'est pour vous donner la foi. C'est autre chose. On peut avoir une bonne connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais sans avoir la foi. Il y a Nicodème. Vous voulez concurrencer avec Nicodème? C'est maître de la loi et docteur de la loi. Vous n'aurez pas fini une phrase qui lui finit le reste. Vous commencez un chapitre et il vous finit le reste. Mais il n'avait pas la foi. Il a fallu qu'il obtienne la foi par Jésus. Et nos connaissances bibliques, quand ils ne sont pas soufflés par le vent de l'esprit, elles deviennent une connaissance morte. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la résurrection finale du croyant. En voilà quelques aspects. Le Saint-Esprit est la garantie de la résurrection future du croyant. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est pourquoi, lorsque nous quittons la terre des hommes, ce n'est qu'un au revoir, on se voit dans la présence de Dieu. On quitte un monde, on rentre dans un autre. Notre regard sur la mort doit être différent, mes bien-aimés. Oui, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en nous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. En nous. Mais oui, ça ne vient pas de moi, ça. C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, ça? Et Philippiens, chapitre 3, verset 20, le dira. Lorsque l'Esprit du Seigneur viendra, il va nous ressusciter. Notre corps, là, qui n'est pas beau, parce qu'on a fait avec les enfants l'histoire de Pierrot, qui ne sait pas jouer au foot, qui est maladroit partout. Et quand on compose une équipe de foot, c'est quand il y a un absent qu'on l'appelle. Et voilà, le pauvre Pierrot, il se sent tout petit. Mais quand il est avec Dieu, il est plus puissant que tout. Hein? Même si notre corps est enterré, vulnérable, si notre corps est abîmé pour une raison ou pour une autre, mais à la résurrection, on sera dans un corps subliminal. C'est le summum de la glorification. Jésus a commencé par nous arracher du monde, par le péché, il nous a nettoyés, il est en train de travailler, il nous a mis dans le vaisseau, il nous a mis dans le bus, nous sommes bien assis jusqu'à la destination finale, et lorsqu'il viendra nous chercher, tout le monde sera glorifié. Tout le monde sera glorifié. On ne reconnaîtra ni homme ni femme, et on sera tous comme des anges. Voilà le summum de ce que Dieu nous donne. Et quand on a le regard pointé vers ça, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Quand les disciples se plaignaient de leur infirmité, quand les disciples se plaignaient de leurs problèmes, Jésus a dit que vous ne comprenez pas que je suis venu installer. Écoutez-moi attentivement. Et il se met à leur expliquer quelle est la supériorité des dons qu'ils ont en Dieu en méprisant les choses de la terre. Lui-même, il a méprisé les honneurs parce qu'il savait vers où il va. C'est pour nous délivrer. Voilà les trois aspects des œuvres de l'Esprit. En dehors de tout ce que vous avez su jusqu'à l'heure actuelle, ajoutez le sceau de Dieu. Et vous êtes le sceau de Dieu. Si Dieu a mis son sceau sur vous, vous avez le pouvoir de mettre un sceau sur quelqu'un par l'évangélisation. Allez annoncer la semence de Christ. Dites ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et la gloire du Seigneur se manifeste. Les arts, nous les avons. Les dons de l'Esprit. Et les dons ne sont pas que les parler en langue. Contrairement à cela. Lorsque Dieu enlève quelque chose en nous, il nous donne quelque chose de lui. Et le souffle de l'Esprit, c'est ça son rôle. C'est d'enlever dans notre cœur des idoles muettes. Il y a des idoles que nous ignorons, qui sont en nous. Et que les circonstances les font apparaître. Mais par le souffle de Dieu, Dieu pénètre dans les recoins de notre être, il nettoie toutes ces idoles et il télécharge sa pensée en nous. Et nous développons la pensée de Christ. Voilà le but. Et ça, c'est dans notre communion permanente avec le Seigneur. Soyez-en bénis. Alors le Saint-Esprit donne aux croyants la vie éternelle. En résumé, le Saint-Esprit est intimement lié à la résurrection finale du croyant. Et en garantissant et en opérant notre transformation, nos corps mortels deviennent des corps glorieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous appelle à y persévérer. Progressons. Louons donc la grandeur de Dieu. Paul invite les croyants à progresser dans la connaissance du projet de Dieu. Ils y découvriront une sagesse, une espérance puissante, une raison de remercier en permanence Dieu. On n'aura pas le temps de nous plaindre. Mais c'est l'antidote à nos plaintes. Ils en ont déjà une première vision. Et ils doivent avancer avec la pleine connaissance, en méditant le passage des vérités, laquelle nous transforme jour après jour à la stature du Seigneur. Nous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu sais très bien que nous n'avons pas choisi d'être nés pécheurs. Cet héritage maudit que Adam nous a infligé, Jésus est venu l'enlever pour nous donner sa bénédiction. Car la Bible dit que maudit est celui qui est pendu au bois. Et tu es devenu malédiction en étant pendu au bois, pas pour des fautes que tu as commises, mais parce que tu t'es identifié à nous, pauvres pécheurs. Tu nous as rachetés pour que ta justice nous soit accordée avec tous les bienfaits. Et l'un des plus grands bienfaits que tu nous as accordés, c'est ton esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, disais-tu à tes disciples. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous soutiendra dans les moments difficiles. Il vous enseignera la sagesse qui vient du ciel pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions qui sont en résonance avec la volonté de Dieu. Ton esprit, Seigneur, apparaît pour nous comme un sceau qui détermine notre identité, pas nos familles, par ce que nous faisons sur le plan professionnel, mais notre identité spirituelle qui nous détache du monde et des ténèbres pour nous attacher à toi qui es lumière. Et tu as fait de nous des enfants de lumière. Et l'ennemi n'a aucune prise sur notre vie. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, s'il y a des vies qui gémissent encore sous le poids du diable, Père, de l'autorité dont nous sommes investis, nous commandons à toutes ces puissances l'Éternel, Père, de lâcher prise. Car là où le nom de Jésus est prononcé, il n'y a pas de place pour les puissances des ténèbres. Que notre esprit soit rempli de ta présence, que nos âmes soient restaurées, que nos blessures cachées intérieures soient guéries, que tout ce qui a été tordu et qui perturbe notre personnalité, Seigneur, soit rétabli dans le nom puissant de Jésus, afin que notre corps soit le temple de l'Esprit. Parfois, Seigneur, les douleurs que nous souffrons dans notre corps ne sont rien d'autre que les perturbations d'ordre spirituel sur lesquelles tu nous avertis par des douleurs, par des langueurs. Au nom de Jésus, donne-nous ton huile fraîche et restitue-nous la force des buffles afin que nous nous levons, âgés ou pas, puissent pouvoir te servir. Renouvelle la force de ton peuple. Donne-leur à manger. Donne leur âme de se repaître de la vérité. Ton peuple est fatigué de tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Nous voulons que tu nous renouvelles et que tu nous mets dans les hauteurs de l'esprit. Seigneur, tout soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.